Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir à cette rencontre avec Emmanuel Jafflin. Emmanuel Jafflin, vous êtes philosophe, vous êtes aussi enseignant en lycée et vous êtes l'auteur notamment de Petit éloge de la gentillesse. Plus récemment, l'année dernière, il me semble, On ira tous au paradis, croire en Dieu rend-il crétin. Et vous venez ce soir nous présenter votre dernier ouvrage paru chez Plon, Apologie de la punition. Ma première question, c'est, on peut se demander comment on passe de la gentillesse à la punition, et de savoir aussi que votre réflexion ne part pas directement de la punition, mais plutôt d'une expérience liée au monde carcéral.
Oui, on peut dire ça. Alors, beaucoup de journalistes m'ont posé cette question, puisque vous avez été connu par trois livres en réalité sur la gentillesse. Le premier, qui était un livre un peu touffu de spécialistes, pour essayer de conceptualiser cette notion qui disait tout et son contraire. Ensuite, un ouvrage de vulgarisation, mais j'espère pas vulgaire, qui est le Petit éloge, qui est l'ouvrage qui a le plus marché. Et comme j'ai vu dès le premier que les entreprises me demandaient de venir pour parler de la gentillesse en entreprise, qui me surprenait un peu, j'ai écrit un troisième ouvrage qui ne comporte pas le terme de gentillesse dans le titre, qui s'appelle Petite philosophie de l'entreprise, mais qui propose de revisiter le management, avec le concept de gentillesse. Donc comment on passe de la gentillesse à la punition ? En réalité, le deuxième thème m'a habité avant le premier, mais on n'est pas schizophrène pour autant. Ce que je disais hors micro, mais pour la caméra, qui va figurer sur le site de la librairie Mola, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande, et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Et je pense que quand on punit pas quelqu'un, on fait preuve de désamour, de désintérêt. Et si j'écris ce livre, c'est parce que, pour plusieurs raisons, je suis intervenu en prison pendant 2 ans, j'ai constaté que c'était pas une punition. C'était même pas une mauvaise punition, c'est qu'au fond, tout le monde était conscient que ça marchait pas et que ça punissait pas. Donc le sens même de la punition était pas atteint. Et ça m'a obligé à revisiter la punition dans son fondement, dans son essence, comme on dit en philosophie. Qu'est-ce qui fait la punition sur tout ce spectre qui va de la famille jusqu'à la guerre, en passant par l'école, en passant par le sport, en passant par toutes les formes de communauté qui existent, les formes cultuelles, religieuses, où il y a de la punition, hein, le terme pénitence dans la religion chrétienne, par exemple, a un sens. Et donc j'ai voulu réfléchir sur la punition en elle-même. Mais j'ai réfléchi de manière appliquée sur 4 sphères de sociabilité, 4 endroits où les gens vivent ensemble. Donc l'école, enfin la famille d'abord, l'école, ensuite le sport, et pour finir la diplomatie qui passe inaperçue, mais qui est le seul lieu où on assume vraiment la punition dans un cas très particulier que les Américains appellent les « rogue states », les États voyous. Donc voilà pourquoi j'ai essayé de retisser la trame de la punition, de refaire un continuum, alors qu'on voit dans notre société aujourd'hui qu'elle est assez oubliée, la punition. On n'ose pas en parler, en réalité. C'est un terme qu'on veut éviter. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours, Ségolène Royal, qui n'est plus à présenter, et qui a pris un ministère où on va repenser l'écologie, on va continuer de penser l'écologie, en tout cas essayer de faire quelque chose, c'est interdit de pratiquer une écologie punitive. Donc on voit bien que dans sa bouche, écologie et punition, c'est ce qu'un professeur de lettres appellerait un oxymore, c'est-à-dire une figure contradictoire, comme soleil noir. Hein. L'idée, c'est que moi, j'essaye de penser la punition de manière positive. Et je ne sais pas ce que pensent les Japonais de Fukushima, mais quelque part, ils doivent penser que ça ne doit pas être illégitime de punir ceux qui ont construit à cet endroit cette usine pour voir les pots cassés qu'aujourd'hui tout le pays doit payer et que les habitants eux-mêmes ont déjà payé dans leur chair. Deuxième exemple, à propos des élections municipales qui ont eu lieu il y a quelques jours, on parle d'un vote sanction à l'égard de la gauche. On ne parle pas d'un vote punitif. On élimine encore le terme de punition. C'est très marrant, ça, parce que le terme sanction qui vient de censurer en latin, il veut dire ce qui est de l'ordre du sacré, ce qui est institué par quelque chose, par une institution notamment. Par exemple, un élève qui a le bac avec la mention très bien, il est sanctionné par l'État positivement. Le terme de sanction, il est aussi bien positif que négatif. Et moi, je vais aller plus loin en montrant que la punition, même si effectivement elle réprimande, elle réprime un comportement qui a été fautif et excessif, elle a un but positif. c'est de réconcilier la victime et le fautif, et c'est de remettre du lien dans la société, alors que les punitions actuelles, qu'on ne veut même plus appeler punitions, puisqu'on parle du système pénal et pas d'un système punitif, on a donné à la punition une aura juridique pour lui donner toute sa rationalité, fait qu'on n'ose plus punir et qu'on a banni le mot du vocabulaire. Et moi, je suis parent, père, je suis enseignant, prof, et je vois bien que dans ces deux sphères-là, il est difficile de punir. Donc je vois bien que la société a évacué la punition, le sens de la punition, le but de la punition, et j'essaye de redonner une finalité à la punition, non pas pour que les gens viennent plus répressifs. Il y a des gens qui m'ont dit « mais t'es de droite puisque t'es pour la punition ». Je dis pas du tout. D'ailleurs, les gens de droite même pas, puisque je milite pour l'abolition de la prison, ce qui est plutôt une idéologie de gauche. J'essaye simplement de réfléchir à ce qui fait le fondement de l'acte de punir, et à ce fondement, il y a notamment l'amour.
Qu'est-ce qui va pas dans la prison, le fait que ça soit pas justement une punition ? Ça a été une période de transition. Avant justement l'acte de punir, on mettait les gens en prison, en attendant ensuite de les punir, et progressivement, la punition disparaît pour laisser place à un emprisonnement.
J'ai un intervieweur qui est aussi un lecteur, mais c'est un peu logique dans une librairie. Hein. Il a lu le livre. Oui, la prison, ça marche pas. Tout le monde le sait, ceux qui y sont, ceux qui les y mettent, ceux qui les arrêtent, ceux qui les récupèrent après la prison. Alors, il y a deux questions en une. Il y a l'historique. Effectivement, la prison, sauf dans une petite marge de temps et pour une petite catégorie de personnes, mais c'était un garde-corps. Bon, c'est-à-dire qu'on détenait le corps immobilisé dans un endroit pour aller le chercher et le torturer. Torture dont il mourait quasiment tout le temps. Donc la prison n'était pas conçue comme la punition. J'ose même dire que le meilleur moment pour le détenu, qu'on n'appelait pas comme ça, par exemple au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, c'était la prison, parce qu'après, les choses allaient se corser. Et notre société a évolué d'une manière très intelligente, d'un certain côté. C'est qu'elle a voulu éradiquer la violence. Donc on a aboli la torture, même si c'est récent. Puis il y a des pays où elle n'est pas abolie, je vous le rappelle. Mais disons qu'en Occident, dans les démocraties, la torture a été évacuée, comme la tuberculose, comme la peste, comme plein de choses, qui montrent que la rationalité de l'homme est en marche. On a gardé la peine de mort pendant assez longtemps. La France a été une des dernières en Europe à l'abolir et en a été très fière. Et cette fierté a masqué tout le reste. C'est qu'en fait, la prison a été gardée. Elle est là par défaut. Elle n'a jamais été pensée dans sa positivité. Elle était là pour détenir des gens qu'on allait vraiment punir. Donc en aucun cas, la punition... C'était les oubliettes. Alors dans le pire des cas, la punition n'était pas dans le fait d'être en prison, mais d'y laisser croupir quelqu'un et de l'oublier définitivement. Donc ce qu'il y a de mauvais dans la prison, indépendamment des effets secondaires que je vais aborder, comme il y a peut-être des médecins parmi vous ou des malades, certainement les deux d'ailleurs, mais il y a un effet secondaire sur lequel tout le monde s'accorde. Mais l'effet primaire, c'est qu'il y a un impensé pénal. C'est-à-dire qu'on a gardé la prison après avoir exhibé aux yeux de tous la violence qui s'exerçait dans la torture. Donc on a fait preuve de rationalité en se dégageant de cette violence, en abolissant la peine de mort. Mais on n'a pas réfléchi, au fond, à ce que valait la punition. Et mon idée, c'est qu'elle vaut rien. Et ce n'est pas mon idée, d'ailleurs. C'est une idée que je partage avec quasiment tous ceux qui sont acteurs de près ou de loin du système pénal et qui gardent ce système par défaut. Et on y réfléchit. Alors, je crois que c'est un peu la nouveauté de mon livre. C'est qu'on réfléchit à une autre solution que la prison, non pas en réfléchissant à la punition, mais en réfléchissant à des alternatives à la prison. C'est-à-dire qu'on se dit par quoi on peut bien remplacer la prison. On est dans la culture de l'ersatz, la manière qu'on a remplacé le sucre par l'aspartame ou la stevita. Eh ben, on essaye de remplacer la prison par le bracelet électronique. Il y a eu depuis très longtemps les tiges, les travaux d'intérêt généraux. Mais ces substitutions continuent de montrer qu'elles sont déterminées par la prison, qui reste l'horizon finalement, parce que celui qui s'en sort mal dans ses peines de substitution retourne à la case prison, ce qui prouve bien que c'est l'horizon et qu'on n'arrive pas à penser la prison. Donc voilà ce qui va déjà pas dans la prison, c'est qu'elle est le symbole suprême de l'impensé pénal. On a une grosse fainéantise à l'égard de la prison. Donc ce livre est un peu gros, je m'en excuse, j'étais pas parti pour faire 300 pages. D'ailleurs, les médias l'ignorent dans sa grosseur comme dans sa profondeur. Ils l'abordent essentiellement sur la question de la gifle et de la fessée, auquel j'ai consacré 3 pages sur 300. Mais bon, les médias ont un spectre large pour arroser le plus de gens possible. Mais moi, j'ai vraiment réfléchi à travers la punition à un moyen de changer la société, de changer les relations humaines, de fonder les relations sur autre chose. Et le système dans lequel on est un système rationnel qui part du haut et qui va vers le bas. C'est-à-dire le haut, c'est le bon comportement de l'honnête homme qui respecte les normes et les lois. Ensuite, la justice qui se saisit par le biais de la police des gens qui ont commis des infractions, des délits, des crimes, ces trois catégories, qui reprennent entre parenthèses les trois justices médiévales, basse justice, haute justice et moyenne justice. Et puis on en est resté là. La prison est le défaut même de la pensée. Donc j'ai voulu repenser la société par le bas, ce qui n'est pas très à la mode. Plutôt que de penser les choses par le haut, je les pense par le bas, parce que je me dis que quand on aura compris mon idée de la punition, qui est une idée que partage au fond, je suis sûr, un grand pourcentage de l'humanité, on fera une autre justice. Et faisant une autre justice, on aura d'autres types de relations les uns avec les autres quand on commet des fautes les uns envers les autres. Autrement dit, derrière cette reconceptualisation de la punition, j'envisage les gens avoir évidemment des relations, comme pour la gentillesse, très différentes de celles qu'on croit garanties par la loi, par l'État, par la police, par les juges et par les avocats. J'ai pas abordé les effets secondaires de la prison, mais je suis sûr que ça reviendra dans une question.
Il y a de fortes chances. Donc sur le paradoxe de la punition moderne, donc il y a la première partie de votre ouvrage, hein, vous parlez de la famille, premièrement, puis effectivement de l'école, hein, puisque c'est finalement assez proche. Et cette disparition de la punition dans la famille, il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a encore une trentaine d'années, la punition était là.
Ça cognait il y a une trentaine d'années dans la famille.
Et ça a complètement disparu.
Bon, il y a encore de la maltraitance. Alors mon souci dans la famille, hein, c'est pas de réintroduire la gifle et la fessée, même si c'est ça qui m'amène devant les télés. C'est de montrer... C'est un peu nuancé, hein, je m'en excuse par avance, mais vous allez bien comprendre que mon propos n'est pas binaire. Il n'y a pas le bien, le mal, et le gentil et le méchant, pour le coup. D'ailleurs, déjà dans la gentillesse, je disais que le vrai contraire du gentil, c'est pas le méchant, c'est le cynique. C'est-à-dire celui qui se fait passer pour un gentil, mais qui, dans la finalité, veut instrumentaliser quelqu'un. Bon, il en va de même dans mon raisonnement sur la punition. Une des raisons pour laquelle on a interdit la punition dans la famille, c'est qu'on a interdit la violence, autrement dit la maltraitance. C'est vrai qu'un père qui tabasse tous les jours ses enfants à coups de pied, à coups de poing, ça n'en fait pas un père. Quelque part, il se destitue lui-même de sa paternité. En revanche, j'essaye de montrer qu'en réinstaurant la punition, y compris physique, ce qui peut tolérer la gifle ou la fessée, en réinstaurant la punition, on réinstaure ce que notre société hygiéniste et aseptisée tente d'évacuer, le corps à corps. Aujourd'hui, on vit dans un spectre qui est, à chaque bout, incarné par deux interdits. La caresse, finalement, il faut s'en méfier parce que derrière, il y a un pédophile qui traîne. Et la gifle ou la fessée, il y a quelqu'un qui est maltraitant. Et donc je dis non. L'enfant, il est capable de comprendre que quand on s'est retenu lui donner une gifle parce qu'il montait en puissance dans ses exagérations, ses actions malfaisantes ou déplacées ou violentes, on apporte par le corps du sens à la punition. Or aujourd'hui, on a l'impression que tout doit être virtuel, y compris la famille, ce qui fait que c'est les enfants qui ont pris le pouvoir. Et ce que je montre, alors là, le propos de mon livre va bien au-delà de la réflexion sur la punition, c'est que dans cette société de l'enfant roi, dans cette société où l'enfant est l'objet d'un culte, on reconnaît par ailleurs que l'enfant est en train de disparaître exactement comme les pandas, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enfants. Moi, j'en ai deux, je suis à peu près dans la moyenne, mais enfin, ce n'est pas la moyenne de la reproduction de l'espèce humaine, hein. Il en faut au moins 2,1. Et moi qui ai vécu dans des pays dits du tiers-monde, en Afrique, il y a des enfants partout. Et dans notre société, il n'y en a plus. Donc paradoxalement, on dresse un culte à l'enfant dans le moment même où on n'en a plus envie, où on ne le désire plus. Au fond, ce qu'on désire, c'est nous-mêmes vivre comme de vieux enfants, comme de grands enfants. Hein, le concept a été forgé par un sociologue, le concept d'adolescent, c'est-à-dire un mot-valise qui fusionne l'adulte et l'adolescent, et qui fait qu'aujourd'hui les adultes sont des adolescents tardifs ou des enfants qui poursuivent leur enfance très tardivement, jusqu'à 50, 60 ans, enfin on est à la limite de l'infantilisme, qui va jusqu'au mimétisme du comportement de l'enfant. Donc voilà pourquoi je reviens sur le corps à corps, non pas pour dire que le centre de l'éducation familiale doit reposer sur la gifle et sur la fessée, mais pour se dire que quand on est père, on existe vis-à-vis de son enfant parce qu'on est aussi un corps, et que se priver de ce contact-là, qu'il s'agisse de la caresse ou de la gifle, c'est se priver aussi de faire passer du sens par l'essence, par la sensualité, par la sensibilité. Alors, je sais bien qu'il y a tout un tas de discours médicaux sur les risques de la gifle, sur... mais je prends deux exemples dans le livre. Puis en même temps, je me méfie beaucoup des médecins et puis de la propension qu'on a à leur donner la parole à tout bout de champ de notre société. Mais c'est l'exemple de Breivik, en Norvège, vous savez, qui, sur l'île d'Utøya, a tué 77 personnes. Et Breivik lui-même dit dans son blog et dans son journal que, au fond, il n'a jamais été puni. Ni dans sa famille, pour des raisons qui sont un peu structurelles dans nos familles actuelles. C'est que le père est parti quand Breivik avait 2 ans, donc il est resté avec sa mère. Sa mère travaillait, et puis elle a choisi une éducation moderne, comme c'est le cas en Scandinavie, où on est toujours dans la discussion, on n'est pas dans le geste. Ils ne sont pas des latins, et on ne doit pas leur en vouloir pour autant. Ceci étant dit, si Breivik avait eu une éducation peut-être plus liée au corps, hein, avec des interdits qui s'incarnent, peut-être qu'il ne serait pas passé à l'acte. Et puis Mohamed Merah, l'événement de Toulouse, c'est pareil. Il a vécu dans une famille qui a été désertée par le père assez tôt. Son grand frère tapait sa propre mère. Donc c'est le modèle inverse. Et du coup, lui-même, il n'a jamais rencontré de limite. Alors il s'est fait exclure des lycées. Je crois qu'il a fait un peu de... sinon de prison. Mais en réalité, la punition par le corps, elle n'est jamais passée chez l'enfant. Et donc voilà ce que ça peut donner comme excès. Je ne dis pas que l'absence de gifle va conduire tout le monde à commettre des crimes et devenir des serial killers. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que regardez avant de dire que la gifle, c'est forcément la source d'une maltraitance. Je ne crois pas si elle est dosée, si elle vient à un point nommé, si elle est la rencontre entre deux humeurs. Je crois qu'il y a une forme d'intelligence qui se joue dans le corps. Puis en même temps, encore une fois, je n'ai pas fait un panégyrique de la gifle dans mon livre qui s'appelle « Apologie de la punition » pour repenser la société sur la base de la faute et de la manière d'y répondre, d'y apporter une réponse.
Donc il y a une perte d'autorité dans la famille qui se retranscrit aussi dans l'éducation où le professeur ne fait plus figure d'autorité.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je prends plein d'exemples dans le livre. C'est pas un livre très savant. Je lui reconnais, puisque d'autres me l'ont dit, qu'il est nuancé dans ses propos, mais c'est pas un livre qui se veut savant, touffu et illisible. Il y a plein d'exemples pris dans la littérature. Vous avez probablement lu, certains d'entre vous, puisqu'on est chez des lecteurs dans une librairie, « Vipère au poing » d'Hervé Bazin, qui raconte bien comment Folcoche, sa mère, tapait les enfants. Donc je prends ces exemples pour montrer que heureusement on est sorti de cette éducation où la mère tapait jusqu'à ne plus en pouvoir l'enfant pour montrer son autorité. On est sorti de là. Je prends l'exemple aussi de « La guerre des boutons ». Livre de Louis Pergaud de 1912, qui fait l'objet d'une première adaptation au cinéma en 1936, puis d'Yves Robert en 1968, puis ensuite il y a une autre version anglo-saxonne, irlandaise, je crois dans les années 90, puis il y a les deux versions qui sont sorties en 2012 pour le centenaire justement de la guerre des boutons. Eh bien, c'est vachement intéressant, à chaque épisode, enfin à chaque incarnation ou adaptation cinématographique, on s'aperçoit que le transfert de punition qui se fait entre le père et l'instituteur dans le livre se désamorce. Et qu'à la fin, c'est le cancre, le héros du film, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre, et que l'instituteur tourne autour de l'élève, autour du cancre, pour finalement montrer que le sens, il est dans la jeunesse, il est dans la vitalité, que l'instituteur, c'est un personnage désuet, dépassé, avec son savoir qui est un peu marginal, au regard de l'enjeu que constitue la guerre entre les Vellerans, et puis j'ai oublié le nom de la deuxième tribu, certains s'en rappellent, non ? Les Vellerans et les Longevernes, voilà, la mémoire m'est revenue. Alors, j'ai pas répondu de manière inexhaustive à la question, mais j'ai pêché des circulaires de l'éducation nationale, notamment pour l'école maternelle, une circulaire de 91, je crois, qui dit qu'il est formellement interdit pour l'instituteur ou l'assistante maternelle de punir l'enfant, que l'enfant ne doit pas être touché, que vraiment s'il manifeste, par exemple dans la cour de récréation ou dans la classe, un acte de violence, il faut l'isoler. Et attention, l'isoler, ça veut dire le prendre avec soi dans la classe ou dans le bureau du directeur ou dans un couloir, mais ne pas le priver intégralement de sa récréation de 15 minutes. Voilà, je sais pas quoi penser de ça, je sais même pas quoi penser de la maternelle d'ailleurs, puisque la maternelle est venue pour prendre le relais des parents. Déjà, c'est une destitution de la famille, la maternelle, par l'État. Mais ce que j'essaye de montrer en général dans ce livre, c'est que la punition est désormais le monopole de l'État. Et donc les individus, d'individu à un individu, n'ont quasiment plus le droit de punir. Et si vous foutez une claque à un enfant, il va brandir le 0800, je sais pas quoi, le numéro qui permet d'alerter pour la maltraitance pour enfants. Et ça, c'est la loi qui fait ça. Et en même temps, le pignon ne suit pas ça. Vous vous rappelez de la séquence où François Bayrou se baladait dans une ville en campagne et il se fait faire les poches par un gamin de 10 ans. Et il se retourne et par réflexe, sans méchanceté ni recherche d'autorité, il lui met une claque. Et tout le monde a applaudi finalement à ce geste qui est à la fois latin, mais qui est en même temps humain, qui est plein de bon sens, et qui fait que face à un acte mauvais, il ne faut pas répondre simplement par la discussion, par la douceur, par l'explication. Il doit aussi y avoir dans la sphère privée de l'instantanéité, de la spontanéité, cette intelligence émotionnelle qui passe par le corps et pas simplement par le droit, par des votes à l'Assemblée nationale, qui à chaque fois qu'un chien mord un enfant dans la rue, doit édicter une loi pour interdire tel type de chien ou le cantonner avec tel appareillage autour du museau. Enfin, on en est là dans une prolifération des lois qui font que ce système pénal ne marche pas, précisément parce qu'il y a inflation des lois et que plus personne ne les connaît, et même les avocats qui doivent faire des recherches pour défendre un client.
Alors, il y a quand même un domaine, on pourrait penser, où la punition existe encore, c'est dans le sport. Sur un terrain de football, si un joueur a un mauvais comportement, il a d'abord un avertissement par un carton jaune et une exclusion, donc sa faute est directement sanctionnée par une exclusion. Donc, on est toujours dans l'exclusion, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que c'est encore du spectacle ? Est-ce que c'est vraiment une punition dans le sport ?
Alors, oui, le sport, c'est très intéressant parce que sans la punition, il n'y a pas de sport possible. Autrement dit, comme c'est un jeu aussi, le sport, il faut absolument qu'il y ait un arbitre qui veille au bon déroulement du jeu. Et le mauvais déroulement du jeu est arrêté par l'arbitre qui prononce une sanction, qu'on n'appelle pas une punition d'ailleurs. Enfin, on reconnaît la faute en tout cas. Et alors, le carton, la couleur varie selon les sports. Hein. Moi, j'ai fait longtemps de l'escrime, donc il n'y a pas de carton jaune. Mais on s'aperçoit que cette faute-là, l'arbitre s'en saisit pour rendre le sport et le jeu possible. L'exercice de l'activité sportive possible, il faut qu'il y ait un arbitre qui sanctionne. En revanche, le sport a pris une telle dimension aujourd'hui que ce qui propulse les sportifs sur les écrans, c'est pas simplement leur talent et leur performance, c'est autre chose qui relève de la chimie, hein, ce qu'on appelle le dopage. Et ça, c'est pas énormément sanctionné. Quand c'est sanctionné, on l'a vu pour un sportif du Tour de France, ça l'est des années après, une fois que le business plan a pu avoir lieu, que les spectateurs ont pu permettre aux publicitaires de faire leur boulot et que chacun gagne de l'argent. Et c'est après coup, finalement, que la punition intervient de manière à la fois exemplaire et en même temps minoritaire. Et je dis que si la punition a déserté et la famille et l'école... Alors pas totalement, mais enfin on voit bien quand même que le désert punitif s'avance. Et puis s'avance même géographiquement, puisqu'en Scandinavie, vous avez vu, on interdit, en Suède par exemple, la fessée est interdite. Et un père est allé en prison, il y a un retour là-dessus, mais un père est allé en prison parce qu'il avait été accusé par l'enfant lui-même, auprès de son institutrice à l'école, de punir son enfant s'il avait zéro en dictée. Donc on voit bien que le désert punitif augmente et que dans le sport il est masqué, c'est-à-dire que pour que le jeu se déroule, il y a effectivement la personne de l'arbitre qui incarne la punition, mais tout en dehors, de manière souterraine, pour nourrir la machine économique, là il n'y a pas beaucoup de sanctions. Donc c'est un domaine ambigu, le sport, où je dis il y a effectivement un type en noir qui court et qu'on valorise, on aime l'arbitre, même s'il y a toujours au chiottes l'arbitre pour les perdants qui pensent que la défaite est due à l'arbitre et pas à l'incompétence ou à l'absence de substances toxiques, compris en grande quantité son équipe. Mais le sport reste quand même marqué par l'ambiguïté. Pour moi, la punition n'est pas encore centrale. Et je propose, alors là, c'est pour dans deux siècles, hein, mais je propose une autre théorie du sport. Je propose un sport justement où il n'y ait plus de compétition. Alors, ça paraît inatteignable de nos jours. Et en même temps, je prends un exemple pour faire comprendre que c'est aussi intelligent, cette proposition, que là encore, je suis sûr, je partagerai avec une grande partie de l'humanité, que la mutation qu'on a effectuée en passant des jeux du cirque au sport qu'on fait aujourd'hui et qui sont les jeux du spectacle, les jeux de l'écran. Dans l'Antiquité, et imaginons qu'une machine à remonter le temps nous emmène à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ et qu'on aille faire un sondage au Colisée pour demander aux gens, avant le spectacle Les Gladiateurs, voilà la proposition. Le prochain spectacle, on voudrait que les gladiateurs aient des épées avec des mouches au bout, enfin des trucs qui émoussent en tout cas, des lames émoussées, et qu'ils ne se tuent pas, qu'ils feignent de se tuer. Eh ben on se ferait lyncher, je crois, enfin, au 1er siècle après Jésus-Christ, ou avant. Si on proposait cette réforme des jeux du cirque, on se ferait lyncher. Eh ben je pense que le progrès moral qui s'est accompli en faisant du sport une activité physique, une activité du bien-être, où il reste la compétition, c'est-à-dire la lutte à mort symbolique, puisqu'il y a un perdant et un gagnant. Je pense que si on proposait un nouveau modèle sportif qui permette non pas à des sportifs de faire du sport dans la catégorie handisport. Vous avez vu l'affaire Pistorius. Bon, il y a une affaire médiatique parce qu'il a peut-être tué la jeune femme avec laquelle il vivait. Mais il y a une autre affaire dans l'affaire qui fait que Pistorius, qui a été amputé très jeune au niveau des tibias et des péronées, a couru avec des prothèses et a réussi, vu ses performances, à s'inscrire dans une compétition normale. Et donc là, il a brouillé la frontière entre les sports pour handicapés et puis les sports pour ceux qui sont non handicapés, mais aussi pas mal aidés par ailleurs, et pas que par l'entraînement. Et donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire du sport ou de donner un nouveau fondement au sport qui soit l'apprentissage de la coopération, que les gros fassent du sport avec les maigres, que les bien portants le fassent avec les handicapés, que les hommes le fassent avec les enfants, avec les femmes. Que, vous voyez, le football, il y a les équipes mixtes, enfin, il y a des équipes féminines, des équipes masculines, mais il n'y a pas d'équipe mixte. Voilà. Et le sport aurait un autre... il serait une matrice de sociabilité. Alors que là, il est une matrice guerrière encore. Il vit encore là-dessus. Mais c'est pour ça que je vous disais avant de vous exposer ma proposition, il faudra 2 siècles pour qu'on glisse du sport compétitif qui a encore les résidus des jeux du cirque et puis un sport coopératif qui est une matrice d'humanité, de sociabilité et de partage finalement d'un engagement du corps qui soit un engagement social et pas simplement un engagement de la performance.
Et dans une dernière partie de votre première partie de l'ouvrage, vous parlez du triomphe de la punition diplomatique. Donc s'il y a encore un domaine dans lequel la punition existerait, ce sera en diplomatie, donc d'un État ou de plusieurs États envers un autre État. Et bon, évidemment, à l'exception de 3 pays, qui sont les États-Unis, la Chine et la Russie, dites-vous, qui s'abrogent justement de certaines règles ou de punitions qu'ils peuvent infliger eux-mêmes à d'autres pays.
Oui, alors vous avez bien compris mon propos. J'essaye de montrer qu'il y a un continuum de l'impunition. Pas de l'impunité, mais de l'abandon qu'on a fait de la punition. Alors déjà au niveau du vocabulaire, parce qu'on préfère le terme de sanction, qui est très ambigu, comme la gentillesse l'était, mais on peut sanctionner positivement comme on peut sanctionner négativement. Donc le terme de punition, on l'évacue parce qu'on trouve qu'il a une charge trop médiévale, trop négative, trop violente, alors qu'on punit quand on sanctionne et qu'on met quelqu'un en prison, et lourdement. Je vais revenir sur les rogue states et la diplomatie punitive, mais je parlais de l'abolition de la peine de mort. On s'est réjoui, la gauche s'est vraiment gossée de cette... vous glorifiez plutôt que gossée de cette victoire symbolique qu'elle a remportée en 80 en abolissant la peine de mort. Et moi, je passais le bac à l'époque, j'étais encore adolescent et pas déjà adolescent, et j'étais fier que mon pays participe. J'avais lu Victor Hugo, aujourd'hui c'est un prisonnier qui se suicide tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, on tue beaucoup plus de gens en les enfermant en prison qu'en en condamnant à mort un tous les 10 ans, ce qui était à peu près le régime auparavant. Je dis pas du tout qu'il faut réinstaurer la peine de mort. Je dis qu'on l'a abolie sans réfléchir à ce qui restait. Et que, du coup, on a gardé ce qui restait sans réfléchir à ce que ça valait. Et ça vaut rien. Alors je réponds à ce que j'avais pas dit tout à l'heure, c'est que les effets secondaires de la prison, c'est que c'est une matrice de la récidive. Autrement dit, on sait, à l'heure actuelle, il y a 66 000 personnes en prison. On sait que 60% d'entre eux vont récidiver. Ça veut dire, quand on met des gens en prison, qu'on fabrique de la délinquance et de la criminalité, qu'on est donc une société criminogène, qu'on n'a aucune, on n'apporte aucune solution au mal, pour poser la question de manière peut-être un peu plus philosophique ou théologique, et les réponses qu'on a sont de mauvaises réponses. Non seulement celui qui est en prison en souffre, mais c'est même pas seulement cette question-là, c'est qu'il en souffre tellement que quand il sort, il est encore dans la vengeance, il veut rattraper le temps perdu, et il se lance dans des activités souterraines, délictueuses ou criminelles, qui sont pires que celles qui l'ont conduit une première fois en prison. Moi, j'ai mené un atelier avec des détenus de longue peine à la prison de Sequedin, alors c'est un peu loin de Bordeaux, c'est à 15 km de Lille. Et je discutais avec eux en atelier, ils étaient une demi-douzaine, hein, sur c'est les anciens quartiers, le quartier Maison Centrale, les anciens quartiers haute sécurité. Ils étaient 24, et vraiment dans un espace beaucoup plus aéré que les courtes peines, avec plus de surveillants. Et je discutais avec eux et je leur demandais ce qu'ils allaient faire en sortant. Et rien qui me dit, tu crois pas, je vais aller travailler dans un truc de bricolage à 1 200 € par mois. Et je lui dis, pourquoi ? Tu crois pas que le temps que tu perds là, vaut pas que tu le récupères en gagnant 5, 10, 15 000 euros par semaine, par mois, pour finalement te retrouver à nouveau à cette place-là. Il faut quand même qu'à un moment donné, on t'aide à réfléchir sur ce qui t'a conduit à faire ça et ce qui va te reconduire au même endroit dans 5, 10 ou 15 ans. Donc on voit bien que c'est un mauvais système, que ça nourrit la haine, ça nourrit la vengeance, ça nourrit le crime, et qu'une société qui enferme les fautifs en prison... Tous les fautifs, c'est un universel pénal. Qu'on n'ait pas payé ses impôts, qu'on ait bouffé son voisin par cannibalisme, on va en prison. La seule variable d'ajustement, c'est la durée. Donc c'est vraiment une mauvaise solution, mais tout aussi rationnelle que l'argent. L'argent, c'est très rationnel, c'est un universel d'échange. On ne se déplace pas avec un mouton pour aller acheter un tapis. On a de l'argent dans sa poche, voire maintenant de manière virtuelle, et on pense que c'est la panacée. On a juste oublié une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus pour s'acheter des choses. On travaille uniquement pour avoir de l'argent. Quel sens ça a ? Ce qui vaut négativement pour l'argent vaut négativement aussi pour la punition. Ça n'a aucun sens d'enfermer les gens, et en plus, on sait qu'on fabrique du crime. Que c'est l'ENA du crime, la prison. Donc voilà pourquoi l'État a le monopole de cette violence légitime, il a le monopole de la punition, qu'il n'appelle plus punition parce qu'il pense que la punition est chargée d'un sens moral et que lui pense que la rationalité, c'est pas la morale mais le droit. Et donc il s'en tient uniquement à la production de lois, à l'incarcération des gens, à des peines de substitution de l'incarcération, et il tourne en rond et il ne trouve pas de solution. Et on verra dans les questions, si vous m'interrogez sur le projet Taubira, que j'ai un peu étudié, et qui est lui aussi très ambigu. Alors maintenant, pour répondre à la question de mon intervieweur sur un endroit où la punition réapparaît, c'est la diplomatie. C'est-à-dire que dans le concert des nations et dans les rapports de force entre les États, tous ne sont pas rangés à la même enseigne. Il y a des États qui sont... hyperpuissant, enfin c'est le concept d'Hubert Védrine pour désigner les États-Unis, c'est une hyperpuissance parce qu'elle est encadrée par rien et que rien ne peut l'arrêter et qu'elle édicte ses règles finalement au monde entier. Et des États qui ne sont quasiment plus des États, qui n'ont quasiment plus ni loi ni armée. Et là, on s'aperçoit que les Américains ont donné le « là », si j'ose dire, musicalement. Ils ont inventé un concept, le concept des États voyous. Alors c'est quoi un voyou ? C'est quelqu'un qui, dans une société, transgresse la loi pour commettre des délits, en général voler, trafiquer, receler, etc. C'est ça le voyou. Et alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce concept des « rogue states », c'est qu'on voit les Américains, pleins de leur puissance, quitter le champ du droit, parce qu'ils n'ont pas le droit d'envahir ces pays pour les punir, puisque chaque État est souverain. Et il se passe en général pour les punir de l'accord des autres. Et donc, ils invoquent une raison qui, elle, n'est pas une raison diplomatique, qui n'est pas une raison juridique, qui n'est pas une raison validée par le droit international ou le concert des nations. C'est la morale. C'est-à-dire que ces États sont tellement immoraux qu'il faut les envahir et les punir. En réalité, on sait que derrière, comme dans le sport, il y a des intérêts économiques et que l'intérêt d'envahir l'Irak, c'est surtout de siphonner son pétrole. Mais néanmoins, on a présenté Saddam Hussein comme une bête noire. Il n'avait pas de grand mérite, mais on voit la situation de l'Irak aujourd'hui et la situation d'avant. De même que je ne suis pas pour la peine de mort du tout, je ne suis pas pour Saddam Hussein. Il y a quand même un semblant d'équilibre. Je ne suis pas du tout pour Kadhafi, mais on voit ce que donne l'intervention de la France, de l'Angleterre dans cette Libye pour constater que le côté moral ici est un côté mal pensé, mal géré et certainement instrumentalisé avec derrière l'idée d'avancer une hégémonie politique ou des intérêts économiques. Et donc la morale a bon dos, mais elle ressurgit alors qu'on l'éliminait de partout. Dans la famille, c'est immoral de foutre une gifle. À l'école, c'est immoral que l'instituteur gifle l'élève. Par contre, on s'offusque peu qu'un enseignant soit giflé par un élève, voire un parent d'élève. Ça fait à peine la une des médias, ce qui conduit certains enseignants à s'immoler par le feu. Ça a été le cas à Béziers l'année dernière. Donc, dans le domaine du sport, il y a une ambiguïté. Donc là, il y a quelqu'un qui reste. Il y a vraiment une autorité, c'est l'arbitre. Mais Sous peine de quoi ? Sous peine que le jeu n'ait pas lieu. Donc là, l'arbitre, il a une finalité fonctionnelle. Et puis, le moment où la punition ressort par le haut du chapeau, c'est au niveau politique, c'est au niveau diplomatique, mais c'est les grandes puissances qui s'arrogent cette vertu qui, si on la creuse, est tout sauf vertueuse, parce que très intéressée, très dictée par la puissance et par les intérêts économiques. Et donc, je me gausse, moi, de cette diplomatie punitive, parce qu'on voit bien que la morale a pour but d'essayer de persuader le monde entier que l'intervention militaire d'une très grande puissance peut être autorisée, validée, accompagnée par l'opinion mondiale. On a vu avec le discours de Dominique de Villepin que ça n'était pas le cas à l'ONU de l'intervention américaine en Irak, mais c'était une voix minoritaire que celle de la France.
Vous parlez par la suite du concept de victimité. Vous dites qu'on est passé d'un passage d'un système punitif qui réprimait les coupables à un système préventif qui empêche les victimes. Bon, l'exemple, c'est la prévention routière, la loi Evin aussi, dans une certaine mesure, les assurances qui commencent à avoir un monopole aussi sur les faits et gestes des personnes justement à qui ils assurent, et qui donnent aussi à l'assuré l'impression d'être protégé en permanence, et donc de faire un peu ce qu'il veut, puisqu'il a la garantie qu'il sera remboursé d'une certaine manière, ou que ses actes n'ont pas forcément de grande incidence.
Et la question ?
Mais la question, justement, c'est pourquoi on est passé, enfin, ce concept de victimité qui rentre aussi dans cette absence de la punition, et comment tout ça en fait empêche la conceptualisation d'une punition ?
Hey, c'est ça l'idée. Moi, je me suis demandé pourquoi on avait peur de notre ombre, pourquoi on n'osait plus punir, pourquoi c'était infamant de punir, pourquoi ce modèle. Alors, visiblement, il y aura des gens ici qui me répondront sur la Scandinavie et qui me donneront des lumières que je n'ai pas, mais pourquoi est-ce que la punition est devenue à ce point infamante ? Parce que c'est développé dans notre culture quelque chose qui n'existait pas sous forme juridique, mais qui existait évidemment sous forme religieuse, c'est le concept de victimité. C'est-à-dire que, on va dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, un citoyen, dans les démocraties, c'était quelqu'un qui était responsable de ses actes, y compris de ceux qu'il n'avait pas commis. La responsabilité, elle est jusqu'à une extra-lucidité qui fait que le père allait se porter caution ou allait endosser la responsabilité des bêtises qu'avait commis son enfant. Moi, je l'ai vu. C'était encore un peu mon époque, même si je ne suis pas né avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais par effet d'hystérèse, il y a des traits culturels qui sont restés. Aujourd'hui, on ne se pense plus comme responsable de quoi que ce soit. L'exemple le plus connu, c'est celui du fumeur qui a attaqué un grand cigarettier américain, en l'occurrence Morris, pour avoir eu un cancer des poumons. Alors, le type fumait quand même 3 paquets de 20 cigarettes par jour. Il a attaqué en réclamant $1 milliard, puis finalement il en a eu beaucoup moins, puis finalement il est mort. Mais on voit bien que l'individu se pense d'abord comme une victime. Nous sommes tous des victimes. Et dès qu'il nous arrive quelque chose, même si on en est la cause, on essaye de creuser pour voir ce qui fait de nous des victimes qui nous excusent, et voire même qui nous permettent de sortir par le haut de la situation. Ça, c'est à mon avis la grande nouveauté du monde dans lequel on vit et dans lequel on baigne, c'est qu'on n'est plus responsable de rien. Alors, j'ai un collègue philosophe qui est mort depuis très très longtemps, Herbert Spencer, qui dit un procès d'assises, enfin l'équivalent en Angleterre, un procès d'assises, c'est un jury de 12 personnes tiré au sort et qui vont décider lequel des deux avocats est le meilleur. Pas du tout. Qui dit la vérité ? Quel est le vrai coupable ? Ça, on s'en fout. Ce qui compte, pour eux, c'est de choisir quel est le meilleur des deux avocats. Oui, le meilleur des avocats. Mais je voulais prendre un exemple. Oui, alors, pour écrire la dernière partie de ce livre, qui en fait m'a été dicté quand étudiant de philosophie, pas le livre, mais l'idée, j'avais lu Lévi-Strauss, qui prend l'exemple d'Amérindiens et de la manière dont ils punissent. Et il distingue deux types de sociétés, Lévi-Strauss, les sociétés anthropophages, qu'on honnie, qu'on méprise, qu'on prend vraiment pour le terme de la barbarie. Et puis les sociétés auxquelles nous on appartient, qu'il appelle les sociétés anthropémiques, émail en grec voulant dire vomir, et qui ne mangent pas les gens qui ont commis des fautes, mais qui les vomissent, qui les excluent, qui les mettent en prison, 60 000, hein, qui sont dans les oubliettes de la République. Et ces peuples-là ne font pas ça. Ils ne vomissent pas quelqu'un qui a commis une faute. Lévi-Strauss, puis après vous me ferez penser à revenir au Kuna pour faire le lien. Lévi-Strauss prend l'exemple d'une tribu amérindienne, une très belle exposition en ce moment au musée du Quai de Branly sur les Indiens des Plaines, qui, contrairement à ce que les westerns ont diffusé, ignoraient le cheval avant la colonisation. C'était des peuples, pas forcément tous nomades, mais en tout cas qui n'étaient pas des peuples cavaliers, mais chevaleresques. Ce que les colons n'ont pas forcément toujours été. Bref, pour revenir à l'exemple de Lévi-Strauss, il dit dans Triste Tropique, à propos de ces Amérindiens, il dit quand un Indien vole un autre Indien, alors je ne sais plus le nom de la tribu, c'est les Cheyennes, quand un Indien vole un autre Indien, toute la tribu se réunit évidemment, et se réunit pour brûler son tipi. Évidemment, pour nous, tipi, c'est une tente, mais pour eux, c'est quasiment comme pour nous notre maison, notre habitacle en dur. Ils le brûlent tous. Et à partir du moment où le tipi est brûlé, ils ont tous contracté une dette envers le voleur. Et ils se chargent de reconstruire le tipi ensemble, de le réalimenter en objets usuels, fonctionnels, pratiques et symboliques. Et on voit comment l'individu est puni. Par le feu, il est humilié. Par le feu, son acte fautif est nié. Il est présenté dans sa négativité. Et en même temps, il est tout de suite enveloppé de l'amour des autres. Allez vous balader en prison, c'est pas facile d'y aller. Sauf si vous commettez une faute, mais même comme ça, vous voyez, les policiers sont un peu vénères, comme disent mes élèves, hein, enfin un peu déçus par le fait qu'on en relâche beaucoup. Mais l'idée, c'est qu'on les exclut. C'est-à-dire que notre mode punitif est celui du vomi, est celui de l'exclusion. On exclut celui qu'on punit, et du coup, on ne comprend pas quelle faute il a commise. Il essaye surtout, quand vous allez en prison, vous voyez bien, de toute manière, qui va en prison ? C'est en réalité pas simplement des gens qui ont commis des fautes, ce sont des gens qu'on n'arrivait pas à intégrer par le circuit social normal. Donc comme ceux-là, qui sont souvent issus de l'immigration, ont du mal à s'intégrer, on les désintègre, comme ça la question est réglée, et on ne se pose pas la question morale de se dire qu'est-ce que punir et comment aimer celui qui nous a fait du mal, pour aller et s'acheminer vers le pardon qui demande un effort moins dispendieux que tout le système qui nourrit les avocats, les juges, les greffiers, la police... mais qui demande un effort spirituel auquel notre société n'est plus prête pour la raison susdite, à savoir cette culture de la victimité dans laquelle on débat, dans lequel on patauge. Et donc, pour revenir à mon exemple des Kuna, avant d'écrire ce livre, que j'avais pris la décision d'écrire, qui intéressait personne, je vois bien que les éditeurs ont quand même une vision à court terme. Comme tout le monde dans notre société, on a tous des visions à court terme et c'est un peu pénible, y compris pour l'auteur que je suis. Bref, pour écrire ce livre, je suis allé chez les Kuna, des Indiens du Panama qui ont 75 000 âmes éparpillées sur des îlots donc dans les Caraïbes, côté Est, et qui sont sur des îlots qui culminent à 60 cm. Autant dire qu'avec le réchauffement climatique... pour lequel ils ne sont pour rien, ils vont devoir déserter ces îlots alors qu'ils étaient des Indiens des montagnes qui ont été délogés de là par le conquistador espagnol. Donc voilà, pour eux, c'est dur et c'est dur pour encore un moment. Mais quand je suis arrivé donc, dans ce village et dans cette île, Pablo, qui n'est pas son vrai nom, qui n'est pas son nom Kuna, mais qui est son nom panaméen en tout cas, puisqu'il faut bien qu'il ait une identité, m'a reçu, comme il reçoit d'autres étrangers, et il savait le but de ma visite, c'était de comprendre comment eux punissaient, pour que je m'en inspire, pas pour les copier, mais pour réfléchir à, non pas une alternative à la prison, mais à l'essence de la punition, qu'est-ce que punir ? Donc je suis resté 3 jours, j'ai écouté tous les sages, en plus j'ai eu de la chance, mais j'ai veillé à venir à un moment où il y avait la rencontre de tous les sages de toutes les îles, donc j'ai pu capter les personnes, les plus avertis et les plus honorés, les plus respectueux et en même temps les plus vieux, donc ceux qui ont le plus de mémoire, ceux qu'on n'aime pas dans notre société, qu'on met dans des maisons à part. Mais dans ces sociétés-là, ils sont au centre. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai débarqué de la pirogue et Pablo m'a dit « Ah, t'es français ?» Je lui ai dit « Oui, c'est une part. » Il me dit « Non, 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 tu viens du pays des droits de l'homme. » Alors là, j'étais en maillot de bain, mais je me suis remis à bomber le torse. Il m'a dit « Bah oui, c'est le pays où quand t'es criminel, tu vas jamais en prison parce que t'as un bon avocat. » Et j'ai dit « Oui, c'est ça. Notre système, il évite la punition à tout le monde. » Je veux pas prendre d'exemple de personnalités très connues qui, avec beaucoup d'argent et de très bons avocats, ont pas foutu un pied dans la prison, hein, mais il y en a quand même pas mal. Et inversement, ceux que je vois en prison, qui sont récidivistes parce qu'ils ont déjà fait leur début de carrière au lieu de la faire à l'école, parce qu'on les a pas non plus beaucoup punis à l'école. Moi, à l'école, je vois ce parcours d'élèves qui... pendant 18 ans, ont jamais été punis, ont jamais eu de goût au travail. Il faut dire que l'école n'est pas très excitante, il faudrait aussi qu'elle se réforme, comme la justice. Mais le fait qu'on ne les punisse pas fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent hors de l'école, sans savoir, sans diplôme, sans compétences, que c'est la rue qui leur tend les mains et qu'ils vont passer d'un lieu de clôture, l'école, à un autre lieu de clôture qui est la prison. Et donc, on m'avait jamais dit ça. Moi, j'avais été diplomate pendant une décennie, donc je représentais la culture française, Montaigne à Bordeaux, Montesquieu pour cette ville, mais Rousseau ailleurs, et puis les droits de l'homme, et puis... Mais on m'avait jamais présenté ça sous ce biais qui fait qu'au fond, l'existence d'un avocat, c'est pas la garantie des droits, de la loi, etc. C'est une justice extrêmement viciée, extrêmement vicieuse. C'est une justice de l'argent, il faut le savoir. Il faut savoir combien ça coûte un avocat. Ça coûte une fortune. Et donc, l'avocat qui vous le fait gratuitement, c'est parce que votre cas est tellement piquant que les médias risquent de s'y attirer et que la notoriété risque de retomber sur lui et qu'il n'y a pas une once d'altruisme dans ce système. Donc voilà, j'ai trouvé très pertinent mon accueil au débarquement de la pirogue en me disant, bon, si je veux penser la punition, il faut surtout pas que je la pense sous l'égide des droits de l'homme, de la France, de la rationalité cartésienne, des Lumières, etc. Il faut que je mette beaucoup plus de choses là-dedans que le lieu commun qui fait que quand on sait pas quoi faire, on fait 5 années de droit et on finit avocat, ou alors on fait l'ENM à Bordeaux pour finir magistrat. Non, il y a peut-être d'autres solutions pour créer une société juste.
Donc justement, le pardon chez les Koumas se traduit de quelle manière? Enfin, la punition, pardon.
Ouais. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de pardonner, Sylvain, mais... la punition chez les Kounas, je n'ai pas trop envie d'en parler parce qu'elle est... Vous savez, on me traite d'angélique dans mes propos, dans les médias, parce qu'il y a des gens qui sont durs, puis il y a des gens qui ont besoin de nourrir la machine aussi médiatique qui fait qu'on parle plus des faits divers sanguinolents que des choses qui sont efficaces, mais qui sont douces, et qui sont douces parce qu'elles sont intelligentes. Vaut mieux couper les choses à angle droit et faire croire que l'intelligence est là. Les Kounas ont des punitions très simples qui reposent sur ce qu'ils ont à leur disposition sur des îles où pas grand-chose pousse, des orties. Donc ils punissent... Ah, c'est quand même subtil, hein. Mais de toute façon, quand on est Kuna, on est tout sauf con, hein, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai eu la chance de découvrir leur monde. Un élève de Lévi-Strauss, d'ailleurs, qui est maintenant un vieux monsieur qui vit à Clermont-Ferrand, est le spécialiste mondial des Kuna, mais c'est un monde étagé. Et les Kuna sont certainement des écologistes beaucoup plus fins, beaucoup moins rationalistes, mais peut-être, on les verra, vous verrez débarquer dans des enceintes multinationales avec un discours sur le monde qui nous ébouriffera beaucoup plus que l'écologie non punitive de Ségolène Royal, je vous l'assure. Bref, les Kuna ont à leur disposition des orties. Alors, ils punissaient certainement autrement avant l'arrivée des Espagnols. Et donc, il fouette celui qui a commis une faute avec des orties. Les orties des Caraïbes, je peux vous dire que ce n'est pas les orties qui sont autour du lac de Biscarrosse. Hein. Moi, j'en ai touché. Je peux vous dire que les boutons que vous avez vous font souffrir pendant un moment. Mais c'est très subtil parce que, par exemple, celui qui ment, je vous laisse deviner où on applique l'ortie. Dans la bouche. Je peux vous dire que vous ne passez plus le reste de vos jours à mentir après. Ouais, alors il y en a une qui doute de tout ce que je dis. J'attends les questions pour voir sur quel bien fondé... Ah d'accord, elle acquiesce aussi, mais je ne regarde pas à ce moment-là. Merci. Mais j'ai trouvé ça... Alors celui qui quand même est l'adultère, vous devinez aussi... Oui, ce n'est pas non plus une partie de réjouissance. Donc c'est une petite communauté, évidemment. Est-ce qu'on peut penser une punition qui a lieu dans une communauté... où tout le monde se connaît, avec une punition comme la Chine, où il y a 1,3 milliard de personnes. Non. Mais par contre, on peut, une fois qu'on a pensé l'essence de la punition, adapter qu'est-ce que c'est que punir. Je ne vous l'ai encore pas dit, les questions sont là pour ça, mais je pense qu'on peut transférer sous plein de latitudes, à plein d'époques de l'histoire à venir, qui n'est pas encore passée, des punitions qui observent la finalité de la punition, pour quelles raisons on punit. Et donc... des orties là-bas, mais il y a plein d'autres moyens de punir qui ne relèvent ni de la prison, ni de l'amputation de la main, ni des moyens qu'on a trouvés jusqu'à présent et qui sont pas efficaces et qui ne sont pas punitifs, bien qu'ils soient violents, cruels et sanguinolents.
On va juste terminer sur l'étymologie du mot
punir. Ah, parce qu'il y a une fin.
Il y a une fin, si c'est possible, avant de passer aux questions et éventuellement aux dédicaces. Punir, d'après le dictionnaire, vous dites, ou que vous citez, vous dites, c'est faire subir à quelqu'un la peine d'un crime, d'une faute. Si on regarde la punition, c'est l'action de punir.
Et c'est un peu tautologique. Hein.
Voilà. Et donc, vous êtes allé chercher la définition du mot peine dans un lexique d'Alloz, donc vraiment dans un lexique juridique. La peine est la sanction infligée au délinquant en rétribution des infractions qu'il commette. Donc, finalement, il n'y a même pas de vraie définition de la punition, de l'acte de punir dans le dictionnaire.
D'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on parlait de l'Académie française qui accueillit un nouvel écrivain à la place du Mime Marceau il n'y a pas très longtemps. Il est bien le dictionnaire de l'Académie française, c'est une référence, il est un peu lent dans son élaboration, une époque où on va vite, mais surtout c'est pas l'encyclopédie, et on lui doit pas une définition pertinente, stimulante, et source de réforme à venir de la punition. Donc une définition strictement tautologique, comme je le montre au début du livre sur le droit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi pour qu'il y ait une punition, mais au fond, il faut qu'il y ait une punition pour que la loi soit validée. Donc c'est un cercle vicieux qui se mord la queue, et aussi bien au niveau du droit qu'au niveau de l'application des peines, il n'y a pas de réflexion sur la punition. Donc je me suis mis en quête comme pour la gentillesse. Hein. Pour la gentillesse, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai montré que cette notion était ambiguë, qu'elle avait une histoire qui était passionnante, hein, puisque chez les Romains, gentilis, ça veut dire le noble, puis le terme va s'affadir, ça désigne l'esclave qui appartient à une famille de nobles, mais qui est lui-même pas noble, puis les nations que l'Empire conquiert, puis les nations qui sont ennemies de l'Empire, donc ça désigne le noble et l'ignoble. Et je me suis dit, tiens, on est arrivé à une ambiguïté, et si je veux reconceptualiser la gentillesse, il faut que je lui trouve un sens que tout le monde partage, mais qui élimine son ambiguïté et donne à cette notion une univocité. Donc j'ai fait le même travail sur la punition. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on fera une réforme de la prison avant de dire il faut chercher des substitutions à la prison? Mais non, définissons la punition. Voyons en quoi la prison s'accorde avec cette définition ou pas, et si elle ne s'y accorde pas, voyons quelles sont les raisons qu'on a de l'abandonner ou de la garder. J'ai lu un texte d'un sociologue qui dit, au fond, il y a 1000 criminels en France, bon, il a écrit ça il y a déjà une quinzaine d'années, mais il y a 1000 criminels très dangereux qu'il faut garder incarcérés, parce que les libérer, ce serait une récidive à coup sûr. Ben, ça veut dire qu'on peut en libérer 65 000, c'est quand même pas mal. Et du coup, pour en incarcérer en permanence, du coup, reconvertir peut-être tous ces gens de robe, que sont les avocats, les juges, et puis leur donner d'autres boulots, puis faire un travail peut-être très différent de notre système pénal. Puis du coup, irriguer la punition dans toutes les sphères de sociabilité qui marchent plus trop aujourd'hui. Que ce soit la famille, que ce soit l'école, sont des sphères de sociabilité quand même pas mal en panne. J'ai vu la comédie hier, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Avec celui qui jouait dans...
Christian Clavier.
Avec Christian Clavier. Oui, mais c'est une comédie, qui est très positive, justement, parce qu'on accepte les immigrés comme ça théoriquement, mais quand on les voit arriver dans la famille, quand la fille blonde aux yeux bleus ramène un noir, un arabe, un juif, un chinois, la pilule de l'immigration, elle est dure à avaler. Et le film est très optimiste. Il nous fait rire de tous nos défauts, de tous nos paradigmes, de tous nos impensés. Mais à la fin, quand on voit comment cette famille se réconcilie, on se dit qu'elle est là, la vraie énergie, que le vrai jus de l'humanité, il est là. Donc je me suis dit, il faut penser la punition d'abord positivement, ensuite on verra bien s'il y a des raisons de maintenir la prison au moins à titre minoritaire. Donc la question de Sylvain, c'est quelle est ma définition de la punition ?
La définition de la punition. Parce que c'est l'axe, c'est le propos de votre livre.
Ouais, c'est le propos du livre. C'est pas le plus gros d'ailleurs, mais comme ça va être le plus pénible à franchir, c'est comme des chimiothérapies qui doivent passer des cellules et qui n'ont pas la bonne taille, c'est un peu le même problème. Donc j'ai pas exagéré sur cette partie du livre, mais je me suis inspiré de deux sources. Donc la source amérindienne, celle de Lévi-Strauss dont je parlais, ou des Kuna que je suis allé voir, et puis une source plus polynésienne, celle des Maoris en Nouvelle-Zélande. Et les anglo-saxons ont une longueur d'avance sur nous, parce qu'ils ont déjà inventé une autre justice qu'on appelle la justice réparatrice, dont la peine probatoire de Taubira s'inspire justement. Mais elle s'en inspire pour une raison exclusivement économique, puisqu'il n'y a plus un rond dans les caisses de l'État, c'est d'essayer de faire diminuer justement les condamnations en justice et de résoudre le problème autrement. Donc il y a des peuples qui résolvent la punition de deux autres manières. Alors je ne sais pas si je commence par la définition ou par l'exposé, je vais vous donner ma définition, puis après vous pourrez vous déchaîner dessus.
Mais je dis punir, c'est s'en prendre à quelqu'un qui a commis une faute en l'humiliant pour ensuite acheminer la victime et le fautif vers le pardon, autrement dit vers la réconciliation. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Notre justice, elle a réalisé un immense progrès. Et il n'est absolument pas question qu'on défasse cette justice pour rien faire à la place. Mais il n'est pas question non plus qu'on la défasse pour faire simplement quelque chose de substitutif, comme un ersatz. Ce qu'elle a fait de formidable, cette justice, pendant, depuis la Révolution française, c'est qu'elle nous a... Elle nous a éloignés de la vengeance. Pas du sentiment de vengeance, mais elle a empêché les vendettas qui étaient le fait des justices privées, puisque l'État avait l'État au Moyen-Âge, la haute justice, la basse justice, la moyenne justice, exerçait sa justice sur le particulier, mais qui concernait le seigneur. Si c'était des choses entre particuliers, les gens réglaient leurs comptes en famille. Et donc il y avait un cercle de vengeance infernale dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, et l'illustration. La famille des Montaigu et des Capulet se tape dessus, mais ils ont oublié la cause du premier sinistre. Et donc notre justice moderne, rationnelle, elle nous a permis de sortir de ce bourbier, de la vengeance. Pas du sentiment de vengeance. Parce que, imaginons qu'un de vos enfants se fasse assassiner. Vous n'allez pas tuer, alors ça peut arriver, hein, mais votre réflexe, qui est le fruit de votre éducation et de la société encadrée dans laquelle vous vivez, c'est d'aller ester en justice, c'est-à-dire d'aller déposer une plainte pour que la personne soit arrêtée, puis ensuite jugée et enfin punie. Donc ce système, il est très bien. Il est très bien, mais il ne nous a pas vidés de notre sentiment de vengeance. On a délégué notre vengeance à un tiers, l'État, le policier, le juge, le directeur de prison et les surveillants. Mais ce sentiment de vengeance... Il nous habite toujours. Autrement dit, on a fait un vrai progrès social, on n'a fait aucun progrès sur le plan spirituel. Bon, là, j'abats un peu une de mes cartes. Mais ce que je dis, c'est que l'humanité ne peut pas progresser uniquement par des structures, des institutions. Elle progresse parce qu'elle a compris quelque chose qui fait qu'elle est un animal très original et qu'elle est un animal spirituel qui regarde plutôt vers le haut que vers le bas. Et il se trouve que la rationalité, elle a toujours tendance à regarder vers le bas, à déconstruire, à analyser ce que font les médecins, ce que font les juges, ce que font tous les gens qui sont éduqués dans le berceau de la rationalité. On croit qu'on peut tout expliquer, qu'on peut tout démonter et après tout reconstruire. C'est pas vrai. Et donc, moi, j'invoque comme horizon de la justice le pardon. Il faut que cette justice soit capable de nous acheminer là, fût-ce à genoux, avec beaucoup de progrès. Il y a eu un fait divers à Échirolles il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 ans, mais j'ai entendu la mère de ce jeune garçon noir, elle-même, la mère noire, pédiatre, qui répondait à un journaliste quand il lui disait « Mais comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que la punition des... » Je ne sais plus quelle punition ont eu les garçons qui sont réunis en bande pour massacrer 2 autres garçons. Elle dit « Mais moi, je pardonne. Je ne vais pas répondre à la violence par la violence. » Et moi, j'étais devant ma télévision et je me suis dit « Waouh, mais quelle exception, cette femme. Quelle femme exceptionnelle. » Parce qu'elle est déjà dans une autre ère, dans une autre époque de la justice, dans une autre phase de l'humanité. Alors ça existe depuis l'Antiquité, des personnalités comme ça, mais archi-minoritaires. Parce que cette personnalité-là, alors on peut dire qu'elle a été éduquée par une religion, par d'autres choses, mais elle n'est pas éduquée par notre système social pour aller jusqu'au pardon. Notre système social éduque les gens pour empêcher de se venger et obtenir réparation par une rétribution, c'est-à-dire par une punition. Mais en aucun cas de former les gens, quand vous allez au tribunal, moi je trouve ça pitoyable, le peu de procès auquel j'ai assisté, on voit bien ce qui va se jouer, et que ça se joue d'abord au niveau de l'argent. Bon déjà, ça c'est une première cause. Si c'est ensuite 200 le sou de paumés qui s'affrontent comme victimes, et là ça va se jouer à l'avocat commis d'office, à l'embouteillage des dossiers que le juge a traités dans un temps record, et on ne peut pas lui jeter la pierre, le pauvre, il est en sous-effectif, donc on voit que c'est un truc qui marche. Pas. Et donc, moi, mon idée de la punition, c'est de faire une synthèse, en gros, je l'ai dit comme ça nulle part dans les médias, mais entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu qui punit, qui est un Dieu vengeur, et je caricature en disant ça, parce qu'il n'est pas que ça, c'est aussi un Dieu du pardon, et puis le Dieu du christianisme, qui est un Dieu du pardon. Et de dire, comme nous, on n'est pas arrivé à cette humanité capable de pardonner toutes les fautes que notre entourage commet, eh bien, il faut conserver la punition. Et le noyau dur de cette punition que j'invoque, et c'est pour ça que je suis peu audible, c'est l'humiliation. Pourquoi ? Et là, je me suis vraiment inspiré des Kuna. Les Kuna, ça m'a beaucoup intéressé. Ils ont une salle commune dans laquelle ils se réunissent justement pour tous les aspects de la vie commune. Et quand quelqu'un est accusé d'avoir commis une faute, il est mis sur un tabouret d'enfant. Pas une chaise normale, pas un trône, évidemment. Pourquoi ? Parce que par son acte fautif, il s'est placé au-dessus de lui-même. Il a commis un acte d'excès de pouvoir. Donc il s'est grandi artificiellement par son acte. Et donc le premier acte de justice, c'est de le ramener à l'humus, à la terre, le mettre les fesses presque au contact de la terre, et donc de le ramener à l'enfance, sur un tabouret d'enfant. Lui dire qu'il agit par infantilisme en se prenant pour un dieu alors qu'il n'était qu'un homme, et donc le faire rétrograder de deux positions en le mettant à la position d'enfant, puisqu'il se prenait pour un dieu, c'est ensuite l'armer et le préparer à revenir dans le monde des adultes. Et donc moi je crois que l'humiliation elle doit être centrale dans la punition du monde moderne. Et alors j'ai pas défini tous les moyens possibles parce que là il faudra que mon livre donne lieu à une imagination pénale qui est totalement en panne. On ne cherche que des peines de substitution. Le bracelet électronique, bon, il y a eu plein de thèses et plein de discours sur ce bracelet. Mais si je ne vous donnais qu'une idée de l'aspect néfaste de ce bracelet, outre le fait qu'il marche pas. C'est-à-dire qu'il est en panne assez souvent, donc il sonne quand il ne devrait pas sonner. Le détenu qui n'est pas détenu, puisqu'il est relâché, mais il est détenu par la cheville, il faut qu'il prenne son bain avec le pied extérieur. Vous allez dire, c'est pas une grosse punition, mais se laver comme ça, c'est pas génial. Mais le pire, c'est que mentalement, ce bracelet électronique, il importe l'univers carcéral dans le foyer. Et donc c'est déjà difficile de tenir un foyer, nous le savons tous. C'est difficile de forger une famille dans notre monde balkanisé où l'individu est roi. Y amener la prison, c'est pas une grande conquête. Et c'est pas une grande conquête de la punition. Et donc du coup, si jamais le détenu, il est père, s'il est mari ou conjoint, ben, il emmène ce truc partout avec lui, dans tous les rapports. Et donc c'est une peine de substitution, c'est pas une peine. C'est une peine qui marche pas. Et donc mon idée, c'est que l'humiliation que notre justice produit, exactement comme les effets secondaires de notre médecine. Alors, vous savez, si vous faites une chimiothérapie, le but c'est quand même d'éradiquer la tumeur. Donc c'est un acte explosif, violent, mais qui veut traiter la violence par la violence, avec des effets secondaires qui sont quand même un peu douloureux. Notre prison pratique l'humiliation comme la chimiothérapie, c'est-à-dire que c'est un effet secondaire. Vous n'êtes jamais humilié quand vous êtes jugé. Vous êtes emmené avec des menottes au poing, mais le policier ne doit pas vous insulter, vous cracher dessus, vous taper, il vous respecte. Il doit respecter les droits de l'homme. Ensuite, il vous conduit au tribunal. Ensuite, vous êtes jugé et on vous met en prison. Et là, l'humiliation commence. Là, parce que ce qui se passe en prison est tout sauf rationnel. Il y a un régime qui excède le droit, qui transgresse le droit en permanence et qui fait que le détenu est vraiment maltraité en prison. Il est humilié non pas parce que c'est prévu par l'acte judiciaire, il est humilié parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on relâche l'attention et parce qu'on accepte cette punition. C'est pour ça que 80-90% des détenus sont sous anxiolytiques, antidépresseurs et traitements chimiques. Donc, moi, je voudrais que l'humiliation soit déplacée, au lieu qu'elle soit un effet secondaire, qu'elle soit l'effet primaire de la punition. Qu'on mette l'humiliation au centre, comme le font les Kuna, en mettant sous le regard de tout le monde le fautif sur un tabouret d'enfant. Alors, bon, voilà, c'est une image, mais en même temps, c'est une source d'inspiration qui pourrait nous dire il faut qu'on déplace le curseur de ce qu'on veut faire quand on veut punir. Je vous remercie, j'espère que vous n'avez pas vécu par ce beau temps cette séance comme une punition, et j'étais honoré de pouvoir faire devant les Bordelais et ceux qui ne le sont pas cette intervention. Merci à vous. Merci et beaucoup. Bonne continuation.
Merci Sylvain. Avec grand plaisir.